France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La Bible, dans laquelle il voyait la plus grande source de poésie de tous les temps, aura, dès les années 30 et tout au long de sa vie, inspiré l'œuvre de Marc Chagall. C'était, pour abriter le message biblique, une série de 17 toiles illustrant la Genèse, l'Exode et le Cantique des Cantiques, dont Chagall avait fait don à l'État français, que fut créé, avec le soutien d'André Malraux, le musée Chagall de Nice. Inauguré en 1973, tout d'abord thématique et connu comme le Musée national Message biblique Marc Chagall, le musée est devenu monographique après s'être enrichi d'une partie importante de la dation faite après la mort de l'artiste en 1985 et de nombreuses nouvelles acquisitions au fil des années. Depuis 2008, il existe officiellement sous le nom de Musée national Marc Chagall. En 1985, dans « Œuvres et chefs-d'œuvre en France », François Léritz proposait aux auditeurs de France Culture de se mettre à l'écoute du message biblique de Chagall conservé au musée de Nice avec l'éclairage de Pierre Provoyeur qui en était le conservateur depuis son ouverture. Une émission en deux volets dans laquelle on entendait le peintre, des lectures de l'Ancien Testament et du Chagall d'André-Pierre de Mandiargue. Musée Marc Chagall à Nice, le message biblique de Chagall, première et deuxième partie, par François Léritz, diffusé la première fois, les 18 et 19 août 1980, sur France Culture.
Depuis Venise, on n'a pas tenté une seule fois un ensemble pictural qui joue sur la surface et sur la couleur. Pour la première fois depuis le Palais des Doges, il y a dans cet édifice un ensemble pictural qui peut rivaliser avec les plus grands du monde et qui n'existait pas depuis 300 ans. Voilà.
Pierre Provoyeur, vous êtes le conservateur du musée Marc Chagall de Nice. Et il est évident que ce qui domine en ce musée, c'est toute la thématique autour de la Bible et du message biblique auquel tient tant Marc Chagall. Alors, comment lui est venue non seulement la possibilité de faire tout cet ensemble de peintures, mais comment lui est venue l'idée d'en faire un ensemble aussi vaste?
Bien, écoutez, d'abord, il faut rappeler que Marc Chagall est né en 1887 dans le ghetto juif de Vitebsk et que pour lui, le monde de la Bible, c'est une réalité quotidienne dès son plus jeune âge. Il faut rappeler également que lors de son second séjour à Paris, à partir de 1923, il a rencontré l'éditeur français Ambroise Vollard, qui lui a demandé, dans les années 30, d'illustrer la Bible, et qui pour cela lui a donné l'occasion de voyager pour la première fois de sa vie en Palestine, en Orient. Et là, Chagall a été ébloui par la lumière du lieu, par une lumière qui pour lui n'était pas seulement une lumière physique, celle, si vous voulez, au fond de la Méditerranée et qui aurait pu être aussi celle de l'impressionnisme, mais une lumière spirituelle. Et c'est sous l'influence de ce voyage et au fond de son patrimoine spirituel hérité, si vous voulez, de toute une longue tradition hébraïque et hassidique, c'est sous ces deux influences que Chagall a produit, à partir de 1931, toute une série de gouaches sur le thème de la Bible. Puis, bientôt, une série de gravures, il y en a 105, gravures à l'eau forte, qui seront publiées en 1956. Et enfin, à partir de 1954, et ceci jusqu'en 1967, la série des 17 grands tableaux qu'il a intitulé « Le message biblique ».
Quant aux gravures que vous évoquez, est-ce que vous les possédez en votre musée?
Oui, Chagall et Madame Chagall, puisqu'ils sont tous deux donateurs, ont offert à l'État français en 1966 non seulement un exemplaire de cette Bible gravée, mais encore tous les cuivres qui ont permis de tirer ces eaux fortes.
Donc on a les originaux, bien évidemment, plus le cuivre, ce qui est toujours très passionnant à voir pour
bien entendu.
Un néophyte. Une chose me trouble un peu, vous évoquez ce qui est tellement évident, l'aspect hébraïque, l'aspect, donc, le côté biblique, puis la Palestine, le voyage, enfin, le côté passionnel de tout cela, de la part, passionnel et quasi mystique, il faut bien le dire, de la part de Chagall, et le côté russe. Pierre Pourvoyeur, vous le voyez sous quel aspect ?
Écoutez, pour moi, je crois que c'est une des composantes indissociables de l'art de Chagall. Chagall est certainement très influencé par le judaïsme et en même temps, presque autant, si vous voulez, par la Russie. Mais je dirais que peut-être la Russie lui a apporté quelque chose qui est purement plastique. Pour lui, c'est évidemment d'abord l'exemple des icônes. Vous le savez, dans la synagogue, aucune image. Par contre, dans l'église orthodoxe, les icônes partout. Et il est certain que certains tableaux du message biblique portent la marque de l'icône. Je pense par exemple au grand Abraham et les trois anges sur fond rouge, qui est assez largement inspiré par André Rublev. Mais en même temps, c'est aussi une Russie moderne qui l'a influencée. J'entends par exemple celle des deux grands collectionneurs qui, à Moscou, dans les années 1907-1909, possédaient des tableaux de Gauguin ou des tableaux impressionnistes, Shtouchkin et Morozov. Et Chagall, qui est très rapidement monté de sa petite ville de Vitebsk jusqu'à la grande Moscou, Chagall a pu voir là ses premiers tableaux occidentaux qui ensuite l'ont invité si puissamment à faire son premier voyage à Paris. Il débarque en 1910 à Paris pour voir le musée du Luxembourg à cause de ses peintures qu'il avait entrevues à Moscou.
Alors, vous dites une chose qui me paraît d'autant intéressante, cette influence de l'icône orthodoxe, qui est pratiquement d'ailleurs la même en Russie qu'en Grèce, et tout ça vient, bon, évidemment du monde orthodoxe né à Byzance, n'est-ce pas ?
Oui, absolument.
Alors,
c'est encore l'Orient.
C'est ça, voilà. Alors, cette influence me paraît d'autant intéressante, c'est que Chagall apporte une chose qui bouscule bien de nos données disons occidental, à tendance réaliste, enfin évoquons Courbet par exemple, qui n'a rien à voir avec Chagall, à savoir qu'on a une tendance, et puis après les cubistes ont modifié ça, encore qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, à savoir que les êtres, les objets, ont des dimensions totalement inventées dans l'icône. On peut voir des églises toutes petites dans la main d'un saint gigantesque. Alors voilà une chose, évidemment, que Chagall a utilisée, mais on a presque l'impression qu'il l'a fait instinctivement. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, parce qu'au fond, il s'agit de la place de Chagall dans l'art moderne. Je pense que, effectivement, Chagall, très tôt, sous l'influence de l'icône, mais aussi de son propre imaginaire, qui est considérable, Chagall détruit la figure. Nous pensons à ces poètes qui perdent la tête, ou dont la tête est coupé en deux et dont une partie vole vers les nuages.
Chagall est pour moi, dans l'âge contemporain, le peintre poète par excellence. Car je ne sais aucun artiste moderne dont l'œuvre soit poésie avec autant d'aisance et de bonheur, sans pour cela se trouver diminué le moins du monde sur le plan strictement pictural, celui de la couleur, celui de la matière, celui de la touche, celui de la forme et de la composition des formes. Nul mieux que lui ne saurait être pris en exemple pour démentir le point de vue trop exclusif des fanatiques de la main aux dépens de l'esprit. Car ses doigts sont habiles autant ou plus que les leurs, et c'est tant mieux pour lui, n'est-ce pas, si les siens spontanément sont guidés par une intelligence supérieure, en même temps que par une sensibilité aux merveilles de la vie qu'il ne partage qu'avec les plus grands lyriques parmi les manieurs de plume. Ce que je voudrais faire entendre ici, et d'abord la distance qui sépare l'artiste, qui est un poète, de celui qui est surtout un intellectuel. Sans être nécessairement destiné au rebut, le second est toujours marqué par les efforts qu'il ne cesse de faire pour pousser son œuvre à la signification qu'il voudrait qu'elle présente, ou par les limites dans lesquelles il l'enferme pour qu'elle ne risque pas d'aller illustrer autre chose que les idées qui la fondent. Tandis que le premier, le poète, Chagall, en l'occurrence, avec plus de vigueur que les autres représentants de l'espèce, ne saurait toucher la toile vierge de sa petite touffe de poils porteuse de couleurs sans y faire naître le thème et l'image lyrique qui sont contenues dans les fonds de sa conscience, avec une sorte de tension ardente qui les oblige à s'exprimer là, ni plus ni moins que par des mots sur le papier. Qui les oblige, ai-je écrit, raisonnablement j'espère, dans le souci de mettre mieux en évidence l'extraordinaire spontanéité avec laquelle s'est toujours accompli et n'a cessé nullement de s'accomplir le labeur pictural et poétique de Chagall.
Pour lui, la figure humaine, pour ne parler que d'elle, n'est-ce pas, et ceci à cause du cubisme ensuite, la figure humaine est profondément digne d'amour. Il ne veut pas lui faire de mal. Et s'il la coupe en deux, c'est simplement parce que derrière notre visage et l'apparence de notre figure, il existe un monde poétique qu'il veut nous donner à voir.
Stéphane Katz, quand on entre dans ce musée Chagall de Nice, qu'est-ce qu'on ressent de prime abord de ce qu'on voit ? L'architecture est très réussie, bon, c'est un ensemble bien fait, tout ça. Mais je parle au niveau des peintures de Chagall. Quand tu vois ces peintures de Chagall, que ça soit la lutte de Jacob et l'ange, enfin tout thème biblique, ainsi que Abraham sacrifiant son fils, que le Cantique des Cantiques, par exemple, que la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce que tu ressens de prime abord ?
De prime abord, comme ça, en rentrant dans la salle, la première chose que j'ai ressentie, c'est les couleurs qui me sautaient aux yeux. D'abord, dans tous les tons rouge, rose, bleu, marron, vert, enfin dans toutes les couleurs. Des couleurs qui pètent, qui éclatent. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux. C'est tout juste si ça brûle pas. Tellement c'est, ça éclate.
Alors, c'est tout juste si ça ne brûle pas, Stéphane. L'éclatement, la brûlure, on peut ne pas aimer. Et puis, on peut aimer.
Non, ça me plaît que ça éclate. Ça me plaît. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange chez Chagall. Je ne saurais pas le dire vraiment, mais je trouve qu'il me donne trop d'importance à la couleur. J'aime bien le fait que ça éclate, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a trop d'importance quand même chez lui dans la couleur. Enfin, il a d'autres qualités, ça c'est sûr, mais ça, non, ça ne me dérange pas que ça éclate, au contraire. Mais la couleur me dérange parce qu'elle est trop importante dans son œuvre.
Alors, elle te dérange parce que le dessin te paraît insuffisant vis-à-vis de la couleur, ou on parlait de Matisse l'autre jour, hein? Eh bien, bon, chez Matisse, peintre, il y a et le dessin et la couleur dans la peinture de Matisse. Chez Chagall, il y a également un certain dessin qui n'est pas du tout du même ordre. Chez Picasso, il y a également un certain dessin. Chez Picasso, peut-être que la couleur compte moins. Bon, chez Matisse, la couleur compte. Et chez Chagall, la couleur te paraît un peu envahissante, c'est ça?
Oui,
que tu
c'est
dis?
Ça, c'est envahissant.
Un peu envahissante.
Un peu envahissante.
Et ce qu'il nous raconte, à savoir la grande image, tel récit, Abraham sacrifiant son fils, enfin, tout ce qu'on connaît dans la Bible, est-ce que ça te paraît satisfaisant? Est-ce que tu pourrais, bon, imaginons que tu es un garçon ou une fille dans quelques années, et que tu envisages de lui raconter la Bible à partir d'images de Chagall. Tu ferais cela?
Ouais, je le ferais. Enfin, je connais pas la Bible, mais depuis que j'ai vu le musée, j'ai envie de le lire. Enfin, je l'ai pas encore lu, et ça me donne envie de le lire. Effectivement, c'est intéressant de le voir imagé comme ça. Parce qu'il y a toute une transposition personnelle, ça c'est normal, c'est pour ça que c'est un grand artiste. Qui me paraît intéressante, effectivement. Dans l'emplacement des objets, même, ou même des personnes, dans son œuvre, est intéressante. Il met des gens la tête en bas, les pieds en haut, je sais pas, des arbres à l'envers.
Pourquoi pas?
C'est ça qui me plaît chez Chagall.
Alors, vois-tu, quand tu dis
c'est que l'anarchie un peu tendue. Oui. Ça me plaît bien.
Non, vois-tu, alors là, ce qui me fait plaisir pour Chagall, c'est qu'il gagne à ce moment-là le pari qu'il s'est proposé de tenir, à savoir que, bon, si tu fais voir la Bible à un de tes enfants ou petits-enfants plus tard à partir de dessins de Chagall, ben, il aura peut-être réussi son coup.
Ah, mais il a réussi son coup, de toute façon. Chagall, il a réussi son coup, ça c'est sûr. Hein. Autrement, Chagall, personne ne connaîtrait Chagall s'il avait raté son coup.
Cet homme, dont l'œuvre est ainsi que la poésie même, je voudrais que l'aient écouté parler de poésie tous les admirateurs et tous les collectionneurs de ces tableaux. Les poètes, a-t-on dit parfois, non sans ironie, n'écrivent que pour être lus par leurs collègues en poésie. Ne nous étonnons donc pas de la sympathie donnée presque a priori par Chagall, poète de la toile, de la palette et du pinceau, à ses collègues en quelque sorte, ou suivant un mot plus russe et que je préfère, à ses camarades, les poètes du papier, de la plume et des nobles caractères d'imprimerie. Lui et les autres, par l'âme et par le rêve, sont frères.
Plus on travaille, plus on se pose des questions, c'est-à-dire, que je fais? Souvent, je pense, c'est lié dans laquelle je vis, où sûrement je resterai. Cette Côte d'Azur, pour moi, c'est Vence, Saint-Paul, Nice. Cela a commencé quand le grand éditeur Ambroise Vollard m'a demandé de faire pour lui une édition du livre de luxe « Les Fables de La Fontaine ». Pour réaliser ce travail, je suis parti vers la Côte d'Azur. C'était vers 1922-23, peu de temps après mon retour de la Russie soviétique. Il me semblait tout de suite être enveloppé d'un nuage rose, d'une vapeur parfumée émanant de fleurs et d'un renouveau de jeunesse. D'autant que peu de temps avant, à Vitebsk ou à Moscou, je vivais comme beaucoup d'un morceau de pain. Mais les pensées de La Fontaine, ce jardin doré avec ses coloris et ses sagesses me charmaient et m'entouraient. Je voulais commencer à travailler, partir loin de Paris en cherchant d'autres arbres, d'autres paysages, des bois, des fleurs, quelque chose d'autre en France que j'ai imaginé. Ce voyage, je l'ai entrepris avec mon ami d'alors, le peintre Robert Delaunay, dans son étrange automobile qui sautillait le long des routes. Heureusement, il avait peu de circulation à l'époque. Plus j'avançais vers les provinces, plus je revenais à moi, tout autre. C'était la première fois que j'ai parcouru la France. Lors de mon premier séjour de 1914, je n'étais pas sorti de Paris, je n'avais pas les moyens. Nous sommes arrivés dans le village de Limoux, près de Carcassonne, chez l'écrivain Joseph Delté. J'ai découvert là les paysans, les vaches, les animaux de basse-cour qui devaient entrer bientôt dans mes gouaches et gravures pour les fables de La Fontaine. Puis, nous sommes dirigés vers Toulon. Plus j'avançais vers la Côte d'Azur, plus je me sentais renaître. Quelque chose d'inconnu dans mon enfance à Vitebsk, l'odeur des fleurs pénétrait en moi comme par vagues. J'y vis déjà à Toulon, où nous avons été arrêtés, ces fleurs qui devaient bientôt se placer dans la main des fiancés et de loin le miroitement soyeux de la mer. En me rapprochant de Nice, j'ai senti, comme tant d'autres artistes qui ont vécu, que je pouvais m'arrêter là. Les poètes, les écrivains, les peintres ont traduit cette renaissance, ces changements qui Nice et ses environs inspirent. Pourquoi cela? Aucun autre lieu ne donne cette sorte d'impression, une approche incompréhensible, une clarté, une joie irraisonnée. L'insouciance, trop peut-être, ses charmes presque musicaux. Plus tard, j'ai vu le résultat de la vie de ces Côtes d'Azur, chez Renoir, chez Bonnard, chez Matisse et d'autres qui travaillaient ici. Ces Nice recouvertes comme d'une dé fleurie. C'est là que je me suis arrêté et que j'ai commencé les esquisses. Et c'est les années. Mais cette terre m'est transformée pour moi comme une autre Vitebsk, plus doux, plus tendre. Je ne peux pas trouver le mot pour expliquer ce qui m'a retenu ici. J'étais une autre. Quelle autre? comme rajeuni d'une vingtaine d'années et j'ai attendu quelque chose. Nice a déjà la mosaïque d'Ulysse que j'ai fait pour l'université de droit. Elle aura dissipé mon message biblique.
Chagall. 1. La création de l'homme. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. » 2. Le paradis. Yahvé, Dieu, planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. 3. Adam et Ève chassés du paradis. Il, Dieu, bannit l'homme, et il posta devant le jardin d'Éden le chérubin et la flamme du glaive fulgurant. 4. L'arche de Noé. Alors, Noé lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol.
En regardant les yeux des habitants, je me pose cette question. Aimeront-ils tout cela quand je serai parmi eux? Mais est-ce que le vent est compréhensible qu'il y a peu de temps couru au bord des mers? Et pourquoi les feuillages des arbres se sont-ils émus ici et là? J'ai apporté et j'ai donné ce que je vis, senti sur cette colline des chimiers. Ça sera comme un symbole d'un autre monde, ce monde biblique qui pénétrera dans le présent en passant à travers cette lumière de la Côte d'Azur où j'ai travaillé autant que je puis.
5. Noé et l'arc-en-ciel. Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. » Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. 6. Abraham et les trois anges. Abraham se hâta vers la tente de Sarah et dit « Prends vite trois boisseaux de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham prit du lait, du caillé, le veau qu'il avait apprêté, et plaça le tout devant eux, les anges. 7. Le sacrifice d'Isaac. Abraham lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. »
Je me disais tout le temps, quand j'étais un petit garçon, je dis, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Pas comme papa, c'est impossible, n'est-ce pas?
Oui.
Je ne peux pas être docteur, c'est trop, je ne peux pas. Et il faut que je justifie ma vie, absolument. Quoi faire? Et j'ai dessiné, et j'ai vu la rue. Je ne veux pas le réalisme. Absolument, je ne veux pas ce réalisme. Et je ne veux pas faire des tableaux pour le mur décoratif. Et je fais ces tableaux, la rue, que vous connaissez, où il y a la mort dans la rue, et sur le toit, elle est un violoniste. Bon. Voilà, ça, c'est une récompense pour ma vie. Quoi faire? Quand je suis venu à Paris, en 1911, j'ai tout de suite couru, n'est-ce pas, aux Indépendants et au Louvre. Mon ami a dit, il ne faut pas aller au salon, il y a trop de gens, mais moi, je vais voir tout ça. Et j'ai dit, ça, pas de réalisme, pas de réalisme, pas ça.
Oui.
Autre chose, construire un tableau autrement que par les moyens qu'on construit, formels.
Oui.
Trouver un formalisme, une construction psychique, si vous voulez. À l'école, quand j'étais à l'école communale, j'ai vu un garçon, mauvais garçon, j'ai vu qu'il a ouvert un cahier avec des dessins très noirs et blancs. Ah, j'étais étonné. Ça, j'ai dit, ça me convient. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Quoi, c'est imbécile. Tu peux aller à la bibliothèque, chercher, et tu peux faire ça aussi, comment copier. Voilà. Voilà la seule chose que j'ai vue. N'est-ce pas? Bon. Je vais continuer. J'ai fait des copies, je ne savais pas qu'on peut créer, soi-disant.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est devenu plus tard. Oui. Ça, c'est devenu plus tard quand je suis allé à Pétersbourg et je suis allé dans l'école de... Pas école de bazar, il fallait avoir le droit de vivre. Je suis allé dans une école plutôt libre chez Bakst, déjà.
Oui, c'est ça, oui.
Qui était célèbre à cause de Diaghilev.
Oui.
Mais je le critiquais parce que c'était déjà décoratif, mais j'étais un garçon que je critiquais. Et surtout, le réalisme. Nous parlons vers des choses essentielles. Ce n'est pas formellement que je vais construire les tableaux de notre vie, pas comme ça, comme l'académisme. Ouais. Non. Dans l'école, j'ai été mauvais élève parce que je ne savais pas faire des genoux, on m'a reproché, etc. Oui, j'avais tout ça. Ouais. Je ne savais pas, je ne voulais pas. Ce n'est pas ça, je n'ai pas voulu faire les tableaux décoratifs. Je ne vais pas faire des tableaux construits comme tous les grands, comme beaucoup de grands, surtout dans le XXe siècle, qui construisent formellement. Non. J'ai renversé des gens, j'ai coupé la tête, j'ai cherché tout ce qu'on peut construire un tableau, un monde, autrement que les autres par les moyens formels, soi-disant.
C'est ça.
Je disais, je n'ai pas cherché, d'ailleurs, quand on est jeune, je n'ai pas cherché les vraies coloris, les vraies chimies. Ça m'intéressait. Et le réaliste, ça ne m'intéresse pas.
Faire de son œuvre le miroir illuminé de sa vie, de la vie des femmes et des hommes qui lui furent ou lui sont chers, de la vie de tous les hommes, si tous indifféremment tombés sous la domination de ce principe génial qui fut nommé aussi l'ange ou le démon de la poésie. Voilà, non pas la volonté de Chagall avec effort accompli au cours des ans, mais le résultat simplement naturel de la croissance d'un corps et d'un esprit né à Vitebsk le 7 juillet 1887, selon les probabilités, sous le signe zodiacal du cancer dont, pour une fois, les traits essentiels ne s'aperçoivent guère dans la vie du sujet. Marcel Arlan raconte que la fille de Chagall, Ida, lui donna à lire des pages où la mère de celle-ci, Bella, évoquait le jeune homme qui allait devenir son fiancé, un jeune peintre un peu fou, aux yeux du commun et qui déjà s'envolait par-dessus les ponts de sa ville natale ou ceux de Saint-Pétersbourg. Dans le concret comme dans le mythe, en effet, Chagall apparaît comme le plus aérien des artistes modernes. Un esprit de l'air, un elfe, doublé d'un esprit du feu, une salamandre. Se moquera-t-on de moi si j'écris ici que j'aurais été curieux de voir un horoscope bien établi de ce sujet magnifique? Le manque de précision de l'état civil de la Sainte-Russie, hélas, ne permet pas de contenter ce vœu.
Pierre Provoyeur, il m'apparaît que dans cet ensemble des peintures du musée biblique, du message biblique, et voilà, j'ai dit du musée biblique, et pourquoi non?
Oui.
Du message biblique, en votre musée Chagall de Cimiez, donc dans le haut de Nice, il m'apparaît comme un bloc un peu particulier, assez différencié de la naissance de l'homme, le paradis terrestre, Adam et Ève chassés, et puis toute la suite, Abraham, enfin tout ce que l'on sait de la Bible, il y a, oui, un bloc d'une grande beauté qui est titré le Cantique des Cantiques, avec une grande précision d'ailleurs, concernant les chants du Cantique des Cantiques de Salomon. Et là, j'ai l'impression, vous me direz si votre impression corrobore la mienne, l'impression que la démarche est un peu différente, comme si elle était tout à coup beaucoup plus personnelle. Non pas que ce qui précède du reste du message biblique ne soit pas personnel, l'art de Chagall lui est propre, mais là j'ai l'impression qu'intentionnellement il y aurait comme une adéquation à ses sentiments les plus directs à lui.
Oui, les plus intimes peut-être, vous avez parfaitement raison. Lorsque l'on contemple les grands tableaux du message biblique, ces 12 poèmes sur la Genèse et l'Exode, au fond, ce qui est en question, c'est le prophète, le héros, l'homme qui, en dialogue direct avec Dieu, transmet aux autres hommes le message biblique, précisément le message divin. Alors, dans ces grands tableaux, au fond, l'impression qui naît la première est celle de quelque chose de très glorieux, de même un peu terrifiant. en tout cas de parfaitement monumental. Dans les 5 tableaux du Cantique des Cantiques, nous passons là à un registre beaucoup plus intime. Chagall va encore dans la Bible puiser dans l'épisode peut-être le plus poétique les passages qui lui semblent parfaitement adaptés à son monde intérieur, c'est-à-dire ceux où, puisque la poésie est en question, il s'agit aussi de la musique. Puisque l'amour est en question, il s'agit aussi de la vie et de l'essence de la vie. Et dans ces 5 tableaux qui sont tous construits sur la même couleur rose, qui est en quelque sorte le thème de l'amour, c'est la couleur la plus sensuelle, c'est celle de la chair. Dans ces 5 tableaux, Chagall va établir 5 variations. Et nous revenons d'ailleurs à un thème musical, n'est-ce pas ? Thème et variation.
Qu'il me donne un baiser de sa bouche, car vos mamelles sont meilleures que le vin. Elles ont l'odeur des parfums les plus précieux. Votre nom est comme une huile qu'on a répandue. C'est pourquoi les jeunes filles vous aiment. Je suis noire, mais je suis belle, ô fille de Jérusalem. Je suis noire comme les tentes de Cédar et belle comme les pavillons de Salomon. Ne considérez pas que je suis devenue brune, car c'est le soleil qui m'a ôté ma couleur. Les enfants de ma mère se sont élevés contre moi. Ils m'ont mise dans les vignes pour les garder, et je n'ai pas gardé ma propre vigne. Oh, vous qui êtes le bien-aimé de mon âme, apprenez-moi où vous venez paître votre troupeau. Où vous vous reposez à midi, de peur que je ne m'égare en suivant les troupeaux de vos compagnons.
Il va choisir pour construire ses peintures des rythmes qui sont eux aussi des rythmes musicaux et qui sont essentiellement des rythmes circulaires, ou alors de très grands élans. On peut voir par exemple David emporter Bethsabée sur un grand cheval, et cette composition, il l'avait déjà choisie pour l'un des grands rideaux d'Aleko, ce ballet de Rachmaninov qu'il avait monté pendant la guerre aux États-Unis. C'est très important parce que, au fond, pour lui, le Cantique des Cantiques, c'est l'occasion de, dans un autre art, j'entends la musique, de trouver quelque chose qui sera utile à sa peinture. Et il n'est un secret pour personne que Chagall, lorsqu'il travaille dans son atelier, peint en musique. Il a à côté de lui Schubert, Mozart et même des musiciens très contemporains pour l'aider dans son travail et l'inspirer.
A-t-il des musiciens russes ?
Eh bien oui, bien sûr. Il a, vous le savez, partagé aussi la carrière de Stravinsky à un certain moment, où Stravinsky a partagé la sienne, tellement ils ont travaillé en étroite collaboration lorsqu'ils ont monté l'Oiseau de Feu, là aussi avec le New York City Ballet, pendant la guerre. Et pour Chagall, ce travail avec Stravinsky était parfaitement indiqué, si vous voulez. Mais je crois qu'il a toujours eu l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait. La Russie, pour lui, c'est une chose importante, mais tous les artistes du monde occidental, c'est au moins aussi important. Et lorsqu'il quitte la Russie en 1923, il sait simplement que quelque part, c'est Rembrandt qui l'attend. Donc, si vous voulez, il n'a pas véritablement de regret de quitter Roublev, parce que déjà Rembrandt était pour lui très important.
Or, Rembrandt, en Amsterdam, vivait dans le quartier juif, oui, et était imprégné de la Bible, puisqu'on a même pensé qu'il appartenait plus ou moins à la Kabbale.
Oui, mais vous savez que Rembrandt était tout de même de religion chrétienne, n'est-ce pas ? C'est très important. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le Cantique des Cantiques, Chagall rend un discret mais bien présent hommage à Rembrandt, puisque les deux figures de la fiancée juive d'Amsterdam sont dans le Cantique des Cantiques, dans l'un de ses tableaux.
Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui demeurera entre mes mamelles. Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de raisins de cypre dans les vignes d'Angadi. Que vous êtes beau, mon bien-aimé, que vous avez de grâce et de charme. Notre lit est couvert de fleurs. Les solives de nos maisons sont de cèdre. Nos lambris sont de cyprès. J'entends la voix de mon bien-aimé. Le voici qui vient, sautant sur les montagnes, passant par-dessus les collines. Mon bien-aimé est semblable à un chevreuil et à un faon de biche. Le voici qui se tient derrière notre mur, qui regarde par les fenêtres, qui jette sa vue au travers des barreaux. Voilà mon bien-aimé qui me parle et qui me dit « Levez-vous, hâtez-vous, ma bien-aimée, ma colombe, mon unique beauté, et venez. Car l'hiver est déjà passé, les pluies se sont dissipées et ont cessé entièrement. Les fleurs paraissent sur notre terre. Le temps de tailler la vigne est venu. La voix de la tourterelle s'est fait entendre dans notre terre. Le figuier a commencé à pousser ses premières figues. Les vignes sont en fleurs et elles répandent leur agréable odeur. Levez-vous, ma bien-aimée, mon unique beauté, et venez. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et il se nourrit par les lys jusqu'à ce que le jour commence à paraître et que les ombres se dissipent peu à peu. Retournez, mon bien-aimé, et soyez semblable à un chevreuil et à un faon de cerf qui court sur les montagnes de Béthèr.
Alors, une chose, Pierre Provoyeur, une chose me frappe, ça je souhaite vraiment avoir votre avis. À cause de la coloration très généralisée, vous évoquez un rose qui est un rose assez rouge, un peu saumonné par moments, un peu plus acide par d'autres. Je parle là vraiment des cinq grands panneaux du Cantique des Cantiques. À cause d'une habitude de Chagall de balader en dimensionnements différents, à la fois personnages humains, animaux, objets, maisons et autres choses de cet ordre, m'est venue, et à cause du fond coloré, m'est venue une association qui peut paraître aberrante, mais il y a quelque chose dans l'ensemble du Cantique des Cantiques, quelque chose qui m'évoque la série magnifique de la Dame à la Licorne qui se trouve au musée de Cluny, mais elle aurait elle en tapisserie.
Oui, je suis persuadé que Chagall ne refuserait pas ce rapprochement parce qu'il s'agit évidemment d'un très grand œuvre monumentale et en même temps d'une vibration, n'est-ce pas, qui là est peut-être due à la technique même de la tapisserie, mais qu'il recherche lui aussi dans ses tableaux, cette vibration de la touche qui permettra de faire naître la transparence et cette espèce de monde aquatique qu'il a toujours affectionné. Maintenant, la Dame à la Licorne, c'est aussi un croisement de mystères innombrables que, jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas arrivés totalement à déchiffrer. Et je crois que pour Chagall, comme pour l'auteur présumé de la Dame à la Licorne, il est important que l'œuvre d'art conserve sa dimension mystérieuse. C'est très très important, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse mettre dans ses tableaux un peu de son propre monde imaginaire. C'est très très important. Et plus le tableau est ouvert, plus l'œuvre est ouverte, plus à ce moment-là, elle deviendra riche pour nous.
Prenez-nous les petits renards qui détruisent les vignes. Car notre vigne est en fleurs.
Alors, dernière question, Pierre Provoyeur. Les enfants et les jeunes gens, les adolescents, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles, bien évidemment, ont quel type de réaction devant un œuvre aussi complet que celui que vous présentez, touchant aux peintures, le message biblique, bien sûr, de Chagall en sa totalité, et peut-être tout particulièrement touchant au Cantique des Cantiques?
Écoutez, je crois qu'il ne faudrait pas vouloir que les enfants, les esprits, si vous voulez, les plus fraîchement poétiques, soit au fond privilégié devant les tableaux de Chagall par rapport aux adultes. Parce que chacun perçoit ce travail, bien entendu, selon son niveau de culture, et peut-être penserez-vous que la culture finit un jour par étouffer le poétique, ça c'est très possible. Mais il y a dans ces tableaux de Chagall divers niveaux de lecture. Et j'ai toujours essayé dans le musée, lorsque j'étais moi-même en contact avec le public, de ne privilégier aucun de ces niveaux de lecture par rapport à l'autre, c'est-à-dire surtout pas, par exemple, de privilégier le discours littéraire sur le discours poétique. Parce qu'à ce moment-là, on risque d'étouffer le second à cause du premier. Néanmoins, il est certain que ce sont des tableaux dans lesquels il faut rentrer avec une immense disponibilité et une très grande fraîcheur d'âme, si vous voulez. Ça, c'est certain. Et c'est peut-être vrai pour tout l'art de Chagall, et c'est peut-être aussi ce qui fait que dans un siècle, le moins qu'on puisse dire, assez tourmenté, n'est-ce pas, nous avons peut-être un peu de mal à nous laisser, à notre tour, envahir par le monde de Chagall.
Au seul mot de poésie, les beaux yeux un peu bridés de Chagall s'agrandissent et s'éclairent. Tout de suite, il parle de tous les poètes qu'il a connus, de ceux qui l'ont aimé, de ceux qu'il aima et qu'il aime, des poètes de son pays, de ceux qui partagèrent avec lui l'exaltation des premières années de la révolution léniniste. Ses proches sont tous ceux que nous lisons avec le plus d'émotion aujourd'hui, et dont les noms sur notre métro idéal sont ainsi que des stations essentielles où le regard longuement s'arrête. Alexandre Bloch, Essénine, Mayakovsky, Pasternak. Je crois qu'à cette liste brève, autant qu'éclatante, il convient d'ajouter le nom du plus fastueusement métaphorique, sans doute des poètes de notre temps, le jeune Andrei Voznesensky, dont les inventions sont souvent chagalliennes, au plus haut point. Du miroir, tête en bas, pendent les invités comme glaçons de gouttière. Au centre du plafond, tendre comme une mamelle de vache, est suspendu le gâteau rose planté de bougies. Oui, mais je crois aussi que parmi tout cela, dans la mémoire du peintre, le favori demeure Bloch. Pendant son premier séjour à Paris, l'on sait que Chagall connut Apollinaire, Sandrard, Mazin, l'Italien Canudo, André Salmon, Max Jacob. Plus tard, il devait connaître Reverdy, puis les surréalistes Breton, Aragon, Éluard. À des époques et dans des circonstances diverses, généralement indépendantes du mouvement surréaliste, ainsi que Supervielle et que Cocteau, auxquels il conviendrait d'ajouter Bonnefoy, Dupin et, je le souhaiterais, Mandiargue. Veut-on admettre que les peintres ont leurs poètes comme les poètes ont leurs peintres et que ces liens d'admiration affective et de compréhension enthousiaste sont choses très importantes pour les uns comme pour les autres? Alors, tels sont, à quelque oubli près, les poètes de Chagall. Le peintre, en tout cas, est fidèle à tous ces poètes, dont il se souvient avec une tendresse inégale, comme il est juste et naturel. Il faudrait être russe pour parler des Russes avec lui. Revenons donc aux Français, à Sandrard et à Apollinaire, point encore naturalisés à l'époque, avec lesquels Chagall fut familier, cependant qu'il habitait à Vaugirard, son atelier de la ruche entre les années 1911 et 1914. À ceux qui furent les premiers à reconnaître son princier génie et à le saluer royalement. Dans les 19 poèmes élastiques de Sandrard, on est obligé de citer en entier, tant il refuse les coupures, le portrait d'octobre 1913. Il dort, il est éveillé, tout à coup il peint. Il prend une église et peint avec une église. Il prend une vache et peint avec une vache. Avec une sardine. Avec des têtes, des mains, des couteaux. Il peint avec un air de bœuf. Il peint avec toutes les sales passions d'une petite ville juive. Avec toute la sexualité exacerbée de la province russe. Pour la France. Sans sensualité, il peint avec ses cuisses. Il a les yeux au cul. Et c'est tout à coup votre portrait. C'est toi, lecteur. C'est moi. C'est lui. C'est sa fiancée. C'est l'épicier du coin, la vachère, la sage-femme. Il y a des baquets de sang. On y lave les nouveau-nés. Des ciels de folie. Bouche de modernité. La tour en tire-bouchon. Des mains, le Christ, c'est lui. Il a passé son enfance sur la croix. Il se suicide tous les jours. Tout à coup, il ne peint plus. Il était éveillé. Il dort maintenant. Il s'étrangle avec sa cravate. Chagall est étonné de vivre encore.
Je fais ces tableaux, ces sculptures, vous pouvez le voir, vous pouvez le juger. Et ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Je ne sais rien du tout. Rien de rien. Je travaille parce que je ne peux pas faire autre chose, vous comprenez? Si je pourrais faire autre chose, quoi? Qu'est-ce que je peux faire autre chose? Et quand j'étais enfant, un garçon, mon père, vous savez, travaillait durement et avait les mains
abîmées.
Il soulevait des grands tonneaux d'aran. Il avait 8 enfants. Je dis, et moi, j'ai poussé. Je disais, non, je ne pourrais jamais faire ça. Et je ne peux pas être docteur, dit Vogar, parce que j'étais un très mauvais élève. À peu près, j'ai reçu des 3.
Oui.
Comme note.
C'est ça. Ah, sur 20.
J'ai regardé les nuages, le ciel.
Oui.
Un petit peu de jeune fille, un peu comme ça. Ça me... Et des vaches, nous avons une vache à la maison aussi. Parce qu'il y avait des enfants, on avait besoin de lait.
Pas de violon.
Ah, il y avait un violoniste dans la cour. Oui, il y avait un violoniste qui donnait des leçons.
Oui.
Mais vous savez, quand je voulais apprendre aussi chez lui, j'ai entré, je n'avais pas de violon. Et je vis, vous voyez, comme je parle souvent de la chimie, soi-disant. Il a scripouillé, vous comprenez, comme ça, je dis, rien à faire pour moi, ça ne chante pas.
J'ai cherché dans mon lit durant les nuits celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, ai-je dit. Je ferai le tour de la ville et je chercherai dans les rues et dans les places publiques celui qui est le bien-aimé de mon âme. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les sentinelles qui gardent la ville m'ont rencontré et je leur ai dit « N'avez-vous point vu celui qu'aime mon âme ?» Lorsque j'eus passé tant soit peu au-delà d'eux, je trouvai celui qu'aime mon âme. Je l'ai arrêté, et je ne le laisserai point aller jusqu'à ce que je le fasse entrer dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a donné la vie. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange du fruit de ses arbres.
J'étais quelqu'un important. Alors, les jeunes filles disent, alors, la liberté, nous allons poser pour nos peintres, pour nos artistes.
Nus.
Toutes nues. Ah, bien sûr, nues. Oui. Pour moi, c'était terrible. Poser nues. D'ailleurs, je n'avais pas d'atelier. Il avait près de la cuisine et chambre. Elle a posé. Oui. Très joli. Tu avais un joli tableau, quand même. C'était, je crois. En tout cas, moi, c'est la première nue que je fais de ma vie. Et maman est venue. Maman est venue. Elle dit... Enlève ce prostitué. Moi, je n'ai jamais attendu le nom prostitué, je ne sais pas. Nous n'avons pas dans la ville des choses comme ça. Nous. Et puis, la pauvre fille, vous savez, pour elle, c'était un sacrifice, vous savez. C'est dénudé. Elle a vraiment devenu plus pâle. Le corps est devenu pâle. Plus pâle, comme une chose de Cranach, vous savez, elle est devenue Cranach. Pour moi, c'était intéressant, mais moi, j'avais peur. Tout à fait Cranach, vous savez.
Je dors. Et mon cœur veille. J'entends la voix de mon bien-aimé qui frappe à ma porte. Ouvrez-moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, vous qui êtes mon épouse sans tache, parce que ma tête est toute chargée de la rosée du soir et mes cheveux des gouttes d'eau qui tombent pendant la nuit. Je me suis dépouillée de ma robe. Comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir de nouveau? Mon bien-aimé passa sa main par l'ouverture de la porte. Et mes entrailles furent émues au bruit qu'il fit. Je me levai alors pour ouvrir à mon bien-aimé. Mes mains étaient toutes dégoûtantes de myrrhe et mes doigts étaient pleins de la myrrhe la plus précieuse. J'ouvris ma porte à mon bien-aimé en ayant tiré le verrou. Mais il s'en était déjà allé et il avait passé ailleurs. Mon âme s'était comme fondue au son de sa voix. Je le cherchais et je ne le trouvais point. Je l'appelais et il ne me répondit point. Les gardes qui font la ronde par la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé et blessé. Ceux qui gardent les murailles m'ont ôté mon manteau. Je vous conjure, ô fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire que je languis d'amour.
C'était Œuvre et chef-d'œuvre en France, musée Marc Chagall à Nice, le message biblique de Chagall, partie 1 et 2 par François Léritz, diffusé la première fois les 18 et 19 août 1980 sur France Culture.